Pauline Pucciano. La cité hantée. Chapitre 7. Dernier cadeau de la donneuse. Pendant les 4 jours de son agonie, Naïma avait rassemblé ses forces pour enseigner à Irène tout ce qu'elle n'avait pas eu le temps de lui enseigner. La jeune fille, recueillie dans la pénombre verte de la hutte, usait de l'esprit presque en continu, non seulement pour se tenir éveillée, mais pour graver dans sa mémoire, mieux que ne l'eût fait une plume sur un vélin, chaque mot que prononçait la moribonde. Et chaque mot était douloureux, chaque souffle brûlant, âpre, chaque syllabe rauque et arrachée à la violence d'une chair en perdition. Elle avait consigné dans sa mémoire tous les chants majeurs, toutes les conjurations collectives, tous les 10 essentiels. Et maintenant, Naïma, qui avait perdu la voix et qui commençait à perdre le souffle, ne désirait plus rien que de mourir dans la tradition. « Amène tous les enfants et le sans-mémoire, articula-t-elle, que tous assistent à mon départ. Et toi, mon Irène, chante et souviens-toi. » Ce furent ses derniers mots compréhensibles. Irène, ruisselante de larmes, était allée chercher toute la petite communauté et, en la rassemblant autour de leur mourante mère, elle comprit toute la fragilité de leur existence. Les plus petits avaient 5 et 6 ans, les autres étaient à peine plus grands et plutôt maigres. Ils n'étaient rien encore, à peine de frêles promesses, des rameaux qu'un seul pas foulerait et briserait. L'âge du devenir était loin d'être achevé pour eux. Elle comprit que pour elle, en revanche, cet âge était passé, ainsi que l'âge du jouir, qui n'aurait pas duré plus de quelques lunaisons. Son œuvre était là qui l'attendait, transmettre la mémoire des spiritualistes, l'incorporer à Albâtre s'il était possible, reformer une autre communauté si l'on ne voulait pas de leur sagesse. « Venez les enfants, vous allez recevoir le dernier cadeau de Naïma. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Naïma va mourir et va vous offrir l'exemple de sa mort, afin que jamais, jamais, vous n'ayez peur de la vôtre. » Les enfants hochèrent la tête en ravalant leurs questions. Il connaissait Irène et avait reconnu le ton de l'enseignement qui ne souffrait pas de réplique. « Toi aussi, sans mémoire, elle t'a demandé. » L'homme hésita, comme si la perspective de voir mourir la vieillarde l'effrayait, mais la vue des enfants dociles qui se dirigeaient silencieusement vers la hutte lui interdit toute retraite. « Pourquoi est-ce un cadeau, Irène? La mort est une chose affreuse qu'il vaut mieux cacher au regard. Je veux mourir dans le noir, et seule. » « Viens sans mémoire, et fabrique-toi un souvenir qui te servira de lueur dans les ténèbres. » La hutte était petite, et les enfants durent se serrer et se tasser les uns contre les autres, contre la cloison opposée à la couche de la vieille donneuse. Irène avait, sur sa demande, lavé son corps et peigné ses cheveux. L'odeur de la maladie avait quitté les lieux, et dans la pénombre, les yeux de Naïma semblaient 2 taches de lumière noire, 2 puits mystérieux que ses paupières épuisées battaient avec une lenteur irréelle. Irène, malgré sa fatigue psychique, fit luire sa pierre frontale et entonna le chant du départ. Sa voix de verbe eut un effet apaisant, immédiat, sur le sans-mémoire, dont la nervosité silencieuse était perceptible à tous, même aux plus jeunes enfants. La vie circule dans les replis du temps, la mort n'est qu'un instant semblable à 100 000 autres. Un point infime sur le cercle de vie. 100 000 fois ta conscience a sombré dans le néant du sommeil. Ta mort est un instant semblable à 100 000 autres et n'efface pas ta vie. Chacun dans la modeste hutte paraissait retenir son souffle pour respirer à l'unisson de Naïma, dont la respiration lente, irrégulière, rythmait étrangement la chanson. Ta vie, tu l'as tracée avec la lumière de ton esprit dans les paysages de l'éternité. Ta vie a créé des lignes et des montagnes, des mondes et des ponts. Ta vie a traversé celle des autres par la lumière de votre communion. Ta vie est semblable à 100 000 autres. 100 000 ancêtres sont morts dans les replis du temps. 100 000 enfants mourront dans les années futures. 100 000 amis s'éteignent en même temps que ta flamme. Les vies tracées et celles qui se tracent se croisent et s'appartiennent dans l'infini. Naïma semblait faire un effort suprême pour atteindre quelque chose. Les puits noirs de ses yeux étaient grands ouverts et reflétaient une sorte de curiosité. Elle était tendue, depuis ses muscles affaiblis jusqu'à son visage crispé, vers un objet invisible qui paraissait l'attirer au-dessus d'elle. Ta mort referme le cercle de ta vie, mais la roue tourne éternellement. Tu vis déjà en d'autres lieux et dans d'autres visages, grains d'étoiles et germes de blé, lumière aride et pluie bienfaisante, corps indistinct, feuillage tremblant. Naïma, ton nom comme un poème se chantera encore sur nos lèvres, et tes dons fleuriront encore nos mains. Morte et vive, morte et éternelle, souvenir, image, origine, parole, source. Qu'avait-elle obtenu dans cet effort? Le sans-mémoire ne le sut jamais. Mais il la vit tout à coup se détendre. Elle respirait encore, plus faiblement lui semblait-il, mais elle s'abandonnait à sa couche, le visage tourné vers eux, et elle les embrassait tous de ses yeux mouillés, infiniment bienveillants, dans une sorte de pâle sourire. Entends poindre à l'horizon les échos de l'aurore, vois descendre vers toi les marches de la Voie lactée, que ton corps céleste émerge du fleuve du temps, que ton corps immaculé s'élève de l'espace, que ta mort soit l'élévation de nos âmes, la communion de la matière qui revient à elle-même. La paix du cercle refermé, parfait dans son infinitude, sans commencement et sans fin, Naïma, que t'accompagne le chant du départ. Quand la voix d'Irene se tut, ils s'aperçurent qu'elle était déjà passée de l'autre côté, imperceptiblement, pendant le dernier couplet. Ses yeux commençaient à se craqueler comme des joyaux brisés, et Irene se précipita pour les lui fermer, comme pour immortaliser l'expression du dernier regard qu'elle avait eu avant d'expirer. « Profitez du dernier cadeau de Naïma, » dit-elle aux enfants. « Elle vous a enseigné comment mourir. Vous pouvez rester ici pour méditer auprès d'elle. » Le sans-mémoire pleurait, alors que les enfants ne pleuraient pas. Irene le remarqua, mais n'en dit rien. Elle le laissa sortir, sans chercher à le retenir. Il n'était pas rompu comme eux, aux habitudes de la méditation, ni au mystère de la mort, ni aux joies simples de la vie. L'homme s'isola près d'un ruisseau qui coulait à peu de distance et s'aspergea le visage d'eau fraîche. La mort ne le prenait pas par surprise, mais il se sentait vidé et désemparé dans le grand vide que laissait la vieille femme. C'était elle qui l'avait ramené doucement à la raison, même si elle avait échoué à le ramener à la mémoire. Elle lui avait assigné une place, et il avait réappris les gestes essentiels du quotidien, les mots de tous les jours, les préoccupations du corps et de la communauté. Il eut brusquement une sorte d'étourdissement, comme un décrochage dans son esprit, une sensation étrange, peu naturelle, qui l'effraya. Des images se formaient dans son esprit comme des songes, sans qu'il perdît pour autant conscience de la berge paisible du ruisseau où il s'était réfugié. Il y avait une silhouette de femme, indistincte, et celle d'un enfant plus petit que ceux de la communauté. Il se concentrait pour essayer de percer les voiles de ses visions lorsqu'Irene apparut près de lui. « Que t'arrive-t-il » demanda-t-elle. « Une femme m'attend à la frontière, » murmura-t-il. « À la frontière de quoi ?»« Je ne sais pas. La vision a cessé. » Irene baissa les yeux, puis les releva. « Tu as changé, Irene, » remarqua l'homme. « Nous avons changé sans mémoire, et nous allons changer encore plus. Est-ce que le cadeau de Naïma t'a apporté la paix ?»« Pas vraiment. » Il essaya de lui caresser la joue, mais elle se déroba doucement à son contact. « L'heure n'est plus à nos étreintes sans mémoire. » Elles font partie d'un temps révolu. Pourquoi ? Une femme t'attend à la frontière, et nous devons nous mettre en marche pour gagner à le battre. Je dois me mettre à la tâche, et tu dois retrouver la mémoire. Nous devons offrir un avenir aux enfants comme aux ancêtres. J'ai le double de ton âge, remarqua-t-il, mais tu as reçu le cadeau de Naïma, et tu sembles plus sage que moi. Je porte un enfant sans mémoire, qui ne sera pas ton enfant. Que veux-tu dire ? Ta vision a dit vrai. Nous sommes sur une frontière, et nos chemins de vie vont se séparer. L'enfant suivra mon chemin, et tu suivras le tien. » L'homme hocha la tête. Il ne se révoltait pas contre cette séparation, qui lui apparaissait somme toute nécessaire. Le fragile édifice de leur vie communautaire, comme une parenthèse hors du monde, venait de s'effondrer. Naïma avait emporté leur lien avec elle. « J'aurai besoin de toi pour ensevelir Naïma, » dit-elle en se levant sans bruit. « J'arrive dans une minute. » L'homme se sentait étrangement léger, et l'incertitude même de son avenir lui montait à la tête. Il regarda ses mains, qui avaient travaillé et vécu, et tenta de trouver son reflet dans l'eau du ruisseau. Parmi les ridules changeantes de l'eau, il vit un visage d'homme, familier, qui ne lui parut ni jeune ni vieux. Ses cheveux longs et noués étaient blancs, mais ce n'était point à cause de l'âge. Quelqu'un l'attendait, l'aimait sans doute, quelque part, avec suffisamment de ferveur pour lui envoyer des visions. Et il sentit au fond de sa poitrine un espoir renaître des cendres qui enterraient son cœur. Le jour était limpide, et il sentait dans son corps, dans ses veines, des forces accumulées depuis 3 ans, prêtes à jaillir. Quand il revint d'un pas plus assuré vers le campement, il se dirigea vers la hutte de Naïma et y pénétra sans appréhension. Quelques enfants s'y étaient attardés. La petite Gretel avait ramassé des fleurs et les lui accrochait dans les cheveux. Un autre tenait la main de la morte, chaude encore, et y imprimait son front. Calice, le plus turbulent des jeunes garçons, jouait une mélodie grave sur une flûte de bambou. L'homme eut un geste affectueux pour chacun d'eux, puis s'approcha de la vieille donneuse. Il dessina un cercle, avec son pouce, sur son front pâle, sans savoir de quelle profondeur remontait ce geste. Gretel, très appliquée au tressage des fleurs et des cheveux, suspendit un instant son geste. « Tu remercies Naïma pour son cadeau, sans mémoire ?» L'homme sourit, en songeant qu'il était presque sûr que là d'où il venait, les enfants n'étaient pas aussi clairvoyants. « Oui, Gretel. Tu n'as plus peur de la mort ?» L'homme hocha la tête. « Je n'ai plus peur de la vie, mais cela revient probablement au même. » Gretel médita ces paroles et retourna à son tressage enfantin. Dans la lumière verte de la fenêtre de bois, le visage de Naïma, presque semblable à un masque, était inondé de rayons et d'ombre. Un court instant, il sembla à l'homme que ses lèvres et ses paupières étaient recouvertes d'un or étincelant, et cela lui rappela, obscurément, le souvenir lointain d'un autre mort. Sa mémoire n'avait pas jailli, mais il la sentait remonter, lentement, de plus en plus près de la surface, et il sourit.